Vous écoutez Radio Graphite 94.9 FM, www.graphite.net. Et oui, vous entendez une voix que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Je remplace Brian qui doit couvrir le festival du Printemps de Bourges, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis du coup accompagné pour la matinale, la mission que vous avez quotidiennement. J'ai en présence Didier Caron de l'association Oise Nature et Ludo. Ludo Nature et Vie, c'est comme ça moi que je t'appelle, photographe animalier, pour nous présenter, vous annoncer, vous informer au sujet de la manifestation qui aura lieu samedi 20 avril, place de l'Hôtel de Ville de Compiègne, à 10h, pour notamment dénoncer, je vous laisse la parole, Didier et Ludo, l'objet de cette manifestation.
Bien, l'objet de la manifestation, c'est de dénoncer une vision très productiviste de la forêt de Compiègne et des autres forêts, parce que malheureusement, ce que l'on voit à Compiègne et ce que notent beaucoup de Compiénois, et on a eu beaucoup de remarques de la part des visiteurs de la forêt, de voir tous ces tas de bois empilés, que ce soit des grumes énormes, mais aussi du bois énergie. Et tout ça se passe de la même façon dans toutes les forêts picardes, voire au-delà. Et donc, on a été alertés. Les élus sont également alertés, parce qu'on en a rencontré plusieurs qui nous ont dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de questionnements et que ben, de fil en aiguille, tout ça a déclenché une réaction. Et la réaction, eh bien, verra son point culminant, j'allais dire, samedi prochain à Compiègne, puisqu'à partir de 10h, nous allons nous réunir devant la place sur la place de l'Hôtel de Ville. Et nous partirons en cortège pour dire tout le mal que l'on pense de la gestion de l'ONF devant les bureaux de la direction régionale, donc pas très loin du champ de course.
Ouais, merci. Voilà. Merci Didier pour cette présentation très très précise. Donc indignation citoyenne, hein, c'est ça qui a suscité l'initiative d'organiser cette manifestation. Ludo, un petit mot juste pour se présenter comme ça, ensuite on ira plus amplement dans le vif du sujet.
Bon, moi je suis avant tout un amoureux de la forêt, je pratique depuis des années la photographie animalière, donc je suis quasi au quotidien donc, j'habite cette belle forêt. Donc voilà, moi je suis là pour témoigner justement sur des choses que d'autres personnes ne voient pas forcément. Donc en l'occurrence, cette sylviculture justement abusive, intensive, mécanisée, qui maintenant s'ouvre aux yeux de tout le monde, parce qu'avant c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Voilà, donc ce qui fait que les gens ne se rendaient pas forcément compte de la gravité de cette exploitation par l'ONF. Et donc voilà. Et puis surtout aussi, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, sur, parce que moi je parle en tant que passionné des animaux de la forêt aussi, de la situation catastrophique, critique des grands cervidés de Compiègne qui fut à la base de la grande réputation des forêts de Picard et de Hauts-de-France. Il ne faut surtout pas oublier qu'on a la chance dans le bassin parisien et dans les Hauts-de-France d'avoir les dernières vieilles forêts de France. Et ça se respecte avant tout. C'est un patrimoine qui est rarissime et qu'il faut absolument sauvegarder tout simplement.
Donc pour situer aux auditeurs, donc là on a deux représentants, donc Didier Caron qui représente l'association Oise Nature qui existe depuis, rappelle-moi combien de temps ?
1981.
Ouais, donc
ça fait un moment que l'on se bat contre tout cela finalement.
Et Ludo, tu représentes le collectif SOS avec Didier notamment, mais bon, c'est un collectif qui s'est monté spontanément.
J'ai justement dans le cœur justement la Oise Nature, hein, naturellement je suis partisan. Donc corps et âme des associations, quoi qu'il en soit, de la forêt de Compiègne, parce que justement, le but de cette future manifestation, c'est de se réunir justement pour contrer tout ça.
Donc, sensibiliser les gens, j'ai l'impression aussi, parce que souvent quand on parle un petit peu de la déforestation ou de la gestion tout simplement forestière avec les gens du Compiègnois, hein, hormis ceux qui sont vraiment en première ligne, j'ose dire, de la déforestation auquel on assiste. Mais souvent, si on croise des compagnons, on n'a pas l'impression qu'ils soient au fait et vraiment conscients de la situation. Et une chose que je souhaite rappeler aux auditeurs, c'est que, si vous me dites si je me trompe, mais l'association Oise Nature, aussi bien que le collectif, ne sont pas contre une exploitation forestière.
Non, du tout, parce que quoi qu'il en soit, une forêt doit être gérée naturellement.
Voilà, vous estimez qu'elle est...
surexploitée, pour moi, mécanisée.
C'est un point, c'est un point important de le rappeler, parce que nos détracteurs, que ce soit l'ONF, mais aussi les gens de la filière bois, ont l'habitude de dire que nous, en tant qu'association de protection des forêts, on a un objectif, c'est de mettre les forêts sous cloche. Mais ce n'est pas du tout cela. La forêt a de tout temps permis aux hommes de construire, d'habiter des maisons en bois, de construire des meubles, d'avoir des parquets,
faire des charpentes de cathédrale.
J'allais justement dire les choses.
Un clin d'œil pour ce qui s'est passé hier soir.
Hier soir, on a assisté comme tous médusés à la destruction de la cathédrale, de la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et on apprend qu'il y a là des arbres qui ont été récoltés il y a 800 ou 900 ans. Les gens n'allaient pas les chercher au bout du monde, ils allaient les chercher dans les forêts du bassin parisien. Et ils ont construit ces charpentes qui sont là toujours, 900 ans après, et qui malheureusement sont partis en fumée hier soir. Donc voilà. Donc absolument pas contre une exploitation des forêts, mais il faut qu'elle soit raisonnable et que l'on ne soit pas dans le cas d'une surexploitation comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la preuve indirect. Malheureusement, l'ONF communique très mal là-dessus, mais on les comprend parce qu'ils n'ont pas envie de se donner des bâtons pour se faire battre. Mais lorsque l'on apprend, par exemple, que le directeur régional de Picardie dit que c'est 5,3 mètres cubes par hectare et par an, le directeur de l'unité territoriale de Compiègne dit que c'est 6,3, donc on a déjà un mètre cube de plus. Et puis on apprend par des voies détournées que je ne citerai pas ici, mais qu'à la direction générale de l'ONF, c'est-à-dire à Paris, on apprend que c'est 10 mètres cubes.
10 mètres cubes, ouais.
Ce qui fait 140 000 mètres cubes dans la forêt de Compiègne. C'est-à-dire qu'on a largement dépassé la production annuelle biologique de la forêt, qu'à partir de ce moment-là, non seulement on prélève l'intérêt du capital, mais on prélève le capital. Donc on décapitalise la forêt. Et on la décapitalise avec des gros bois. On voit des gros chênes actuellement alignés le long des routes forestières. Et ça, c'est dramatique pour l'écosystème forestier dans sa globalité.
C'est vrai qu'on va essayer d'être le plus vulgaire possible, parce que la sylviculture, c'est un domaine très, très technique. Et l'objet, c'est de sensibiliser nos auditeurs. Mais c'est vrai qu'on parlait des cathédrales. La forêt de Compiègne, si je ne m'abuse, je crois qu'elle a été les forestiers d'il y a plus d'une centaine d'années. Hein, c'est Colbert.
Exactement, par le biais des eaux et forêts, qui a été justement assignée par justement les nobles de l'époque, tout simplement, pour justement, parce que Compiègne et les grandes forêts du bassin parisien et des Hauts-de-France étaient avant tout un territoire aménagé pour la chasse.
Absolument.
Et donc, naturellement, comme les rois, les seigneurs étaient très sensibles à la fois d'avoir une forêt pratique et belle, donc ils avaient cette conscience de maintenir à long terme cette forêt. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y avait grandes futaies cathédrales qui étaient vraiment typiques.
C'est vrai que ça caractérise
des régions comme la nôtre.
Et c'est un héritage culturel aussi bien au niveau de la technique forestière, du savoir forestier. C'est un héritage.
Exactement, c'est un savoir-faire de pouvoir plus cultiver et pour qu'un chêne devienne séculaire. C'est un travail à long terme. Et nos anciens ont eu cette patience de le réaliser. Et en quelques coups de tronçonneuse au jour d'aujourd'hui, pour des questions qu'on va certainement énumérer après, c'est devenu.
Et c'est vrai que c'est deux ans de voir une exploitation qui a été, comme on disait tout à l'heure, l'héritage de tout un savoir et qui est sabré comme ça sous couvert de rentabilité.
C'est clair. On va juste rappeler que l'ancien directeur de l'ONF, qui est parti au mois de janvier, gentiment remercié d'ailleurs par son ministre de tutelle, avait réuni ses troupes juste avant de partir en disant « Notre objectif, c'est de rétablir l'équilibre financier de l'établissement, quel qu'en soit le prix.
Ouais. »
Le prix, on le voit aujourd'hui.
Tout à fait.
Comme l'ONF vit essentiellement en vendant du bois, eh bien, on a fait marcher la tronçonneuse et on l'a fait marcher. On sait tous, malheureusement, que ce n'est pas la solution et que c'est une solution passagère, puisqu'il faudra continuer de faire vivre cette forêt. Et le deuxième problème de la forêt de Compiègne, c'est qu'actuellement, l'ONF n'est pas capable de la régénérer correctement. Donc, on est dans une espèce d'entonnoir, dans une... dans la contradiction la plus totale. Donc, on prélève de plus en plus de bois, tout en sachant derrière qu'on a de plus en plus de difficultés à régénérer cette forêt. Alors, si la forêt se régénérait facilement, et je dirais à la limite, il n'y aurait pas péril en la demeure. Mais aujourd'hui, on coupe plus que la forêt produit, et on n'est pas capable de la régénérer. Que va-t-il se passer dans les 100 ans à venir?
C'est vrai que...
Mais c'est la grande question.
C'est une grande question. Ouais.
Alors qu'on sait tous ici, et les auditeurs le savent aussi, parce que les gens le savent, la forêt joue un rôle essentiel dans le cadre de la lutte que tout le monde est en train de mettre en place pour lutter contre les effets du changement climatique.
Tout à fait.
Voilà. Là, voilà, qu'on nous explique. Là, vraiment, plus personne ne comprend.
Nos grandes forêts sont les poumons de Paris, tout simplement. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'on constate un paradoxe total avec le discours officiel, les COP 21, l'environnement, tous les enjeux climatiques qu'on entend à longueur de journée, ce qui est très bien. Et puis, on constate, nous, localement, une attitude complètement paradoxale avec les enjeux qu'on se fixe. Et c'est vrai que, bon, effectivement, comme beaucoup de domaines, il y a un compromis entre l'équilibre budgétaire et tout ça, c'est un gros souci. Mais on sent vraiment, sans être spécialiste, que là, il y a quelque chose qui est un peu surexagéré. Et c'est l'objet, justement, de cette émission, c'est d'informer les gens, tout simplement, sans aucune logique partisane, quoi que ce soit. C'est vraiment citoyen, et c'est vraiment alerter, sensibiliser les gens aux enjeux environnementaux et en l'occurrence la déforestation qui est un petit peu, d'après vous, accentuée et abusive.
Ça s'est accéléré.
Et qui aura des conséquences très très dommageables sur l'environnement à très moyen terme. Et je crois qu'on va pouvoir ensuite, on va faire peut-être une petite pause musicale. On va rappeler du coup l'événement, c'est samedi à 10h, samedi 20 avril, samedi qui vient là. C'est le week-end de Pâques, mais il va faire très très beau. Donc
exactement, c'est prévu.
Profitez de venir
au soir. Préparez vos banderoles, vos tambours.
Et on rappelle,
manifestation pacifiste surtout.
Absolument.
Oui,
absolument. Place de l'hôtel de ville de Compiègne à 10h, samedi 20 avril. C'est SOS Forêt de Compiègne et Oise Nature qui organisent la manifestation sous l'étendard SOS Forêt de Compiègne, tout simplement. Et donc, ce sera l'occasion de se mobiliser et puis aussi de faire un petit parcours, l'itinéraire, je crois, c'est Didier.
On partira donc de la place de l'Hôtel de Ville. On rejoindra, en prenant la rue Jean Legendre, nous remonterons la rue de Pierrefonds, puis la rue Saint-Lazare pour tourner sur notre gauche et nous rendre devant la direction régionale de l'ONF, là, qui se trouve non loin de la rue Saint-Lazare.
D'accord, mais je crois qu'il y aura aussi un moment assez conséquent devant la place de l'Hôtel de Ville afin de...
Oui, devant alors, juste pour redire deux mots, donc il y a le SOS Forêt de Compiègne, de la forêt de Compiègne, pardon. Il y a Oise Nature, évidemment, Oise Nature qui est un peu le support administratif de tout cela, bref, bon. Mais il faut savoir aussi que d'autres associations vont venir nous rejoindre et il y a des associations qui vont venir de Chantilly, Ermenonville, Alatte, forêt de Retz, forêt de Saint-Gobain et la très lointaine forêt de Mormal, là-haut, qui touche la frontière belge, où là, ils ont aussi des problèmes. J'allais dire, ce sont des forêts domaniales, donc toutes ces forêts-là, même
topo,
même punition, elles doivent alimenter la filière bois en beau bois. Et donc, toutes ces associations sont très, très mobilisées et viendront nous rejoindre. Voilà.
Ouais, merci à elle, en tout cas, d'être présente ce jour-là.
Oui, c'est sûr, hein, les gens qui vont
venir
de loin.
Ça fait plaisir.
Et voilà.
On se retrouve tout de suite, on fait une petite pause musicale avec un morceau de Simon Day, un groupe des années 70, avec le morceau Equatorial Forest. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Une très bonne matinée à l'écoute de Radio Graphite. Hop là, ça c'est une petite interlude, une petite erreur technique. Vous écoutez Radio Graphite 94.9 FM, www.graphite.net, c'est la matinale. Une très bonne matinée. Vous écoutez Radio Graphite 94.9 FM, www.graphite.net, c'est la matinale. Nous sommes en compagnie de Didier Caron et Jean-Luc Naturevi, je te présente comme ça. Hein.
Ouais.
Ça te va ?
Jean-Luc Naturevi ?
Non, Ludo. Ludo. Pardon. Oh là là, excuse-moi, j'ai confondu. Excuse-moi. Ludo Naturevi, excuse-moi. Nous, qui représente le collectif SOS Forêt de Compiègne et l'association pour Didier Oise Nature. C'est un plaisir de vous accueillir à Radio Graphite. On relaie l'information de l'événement qui aura lieu samedi matin, samedi 20 avril à 10h du matin, manifestation SOS Forêt de Compiègne, et qui a pour objet de fédérer, sensibiliser les gens sur la déforestation massive, accrue, abusive de l'ONF qui a lieu depuis quelques temps déjà. Tous les usagers le constatent, malheureusement, tout le monde s'accorde pour dire que l'ONF exagère un petit peu. Juste avant la pause musicale, on faisait un petit peu état des forêts de Ménial pour expliquer un petit peu aux auditeurs. Je crois que la majeure partie des forêts françaises sont des forêts privées. Donc là, la gestion, elle se fait au gré des propriétaires, hein, de façon des fois très très raisonnée. On voit plusieurs modèles, hein, je pense. Je n'ai pas la connaissance pour faire le.
Oui, tout à fait. On va dire que. Les forêts privées sont gérées par leurs propriétaires, soit directement quand ils ont des grandes surfaces et qu'ils savent le faire, mais souvent ils passent aussi par des experts forestiers. Et la grande différence, c'est qu'on s'aperçoit finalement que dans les forêts privées, on a envie de dire que c'est un peu mieux géré, parce que en fait, c'est quand même le patrimoine du propriétaire qui est là. Donc, il n'y a pas beaucoup qui imaginent raser leur forêt faire autre chose.
Ouais.
Donc, c'est là que l'on trouve le plus de propriétaires qui font de ce qu'on appelle le pro-silva, c'est-à-dire une gestion très proche de la nature des forêts. Hein, c'est-à-dire qu'on fait de la futaie régulière, on récolte les arbres lorsqu'ils sont matures, et on en récolte en quantité suffisante pour raisonner. Voilà, le terme exact, c'est raisonner. Voilà, et on laisse les choses se mettre en place, on fait de la régénération naturelle. En fait, bref, on essaye de faire au mieux pour préserver un patrimoine qui est souvent dans la famille depuis longtemps et qu'on a envie de transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants dans les meilleures conditions.
A priori, on a envie que ça soit durable. Ouais, c'est
voilà,
sûr.
Et en tirant quand même un profit, hein, parce que bon, il y a aussi du chiffre d'affaires à faire, parce que la gestion d'une forêt, ça coûte de l'argent. Donc, évidemment, les gens. Mais c'est là où on trouve les gestions les plus raisonnables, j'allais dire. On a des beaux exemples dans la région.
À la différence des forêts domaniales, qui ne sont pas la majorité, mais c'est le cas de la forêt de Compiègne. La forêt domaniale, alors qu'est-ce que c'est ? C'est une forêt publique, mais c'est la propriété privée de l'État.
Alors voilà, c'est très subtil, parce que les Français, enfin, on a l'habitude de dire c'est les forêts de l'État, donc ce sont nos forêts, finalement, parce que l'État, c'est moi, comme disait mon voisin. Et sauf que la subtilité, c'est que les forêts domaniales sont des forêts du domaine privé de l'État.
C'est ça.
Donc, on pourrait très bien, dans une, et ça existe, hein, y a des forêts domaniales dans lesquelles on n'a pas le droit de mettre un pied dans, dans une parcelle, on ne peut pas y cueillir une fleur, on ne peut pas y ramasser un champignon.
Théoriquement, voilà,
L'État L'État pourrait très bien nous dire demain, bon, écoutez, la forêt de Compiègne,
terminé.
Vous, c'est fini, vous roulez sur la route de Crépy, sur la route de Soissons, sur la route de Pierrefonds, mais ailleurs, c'est fini, quoi. Voilà, ça pourrait être ça. Donc, c'est deux notions très différentes. Et les forêts domaniales sont gérées donc, par l'ONF, hein, puisque c'est l'organisme qui est sous tutelle de...
De plusieurs ministères, de, hein,
Oui, alors, sous tutelle de, de l'agriculture, sous la de tutelle de, du ministère de l'écologie, qui sont les deux grands... Mais il y a aussi l'économie qui jette un œil, si bien que quand on voit des contrats gérés par l'ONF, on voit 3 ou 4 signatures de 3 ou 4 ministres différents. Donc là, ça rend les choses encore plus compliquées, parce qu'évidemment, chacun n'a pas... Les objectifs ne sont pas les mêmes...
Et on parlait de la forêt normale, du coup, qui est une forêt domaniale également, qui dont les représentants des associations qui la défendent seront là également samedi, c'est cela.
Oui, absolument.
Et je voudrais vous interroger sur les détracteurs, donc, parce que souvent quand on discute avec les gens, certaines personnes ne sont pas convaincues vraiment de cette mauvaise gestion. Ils ont l'habitude d'avoir confiance aux autorités, ce qui est une très bonne chose. Mais on va vous opposer des arguments tels qu'il y a les maladies, etc. Mais je pense que c'est intéressant de présenter aux auditeurs qu'effectivement, donc, il y a un caractère financier qui est indéniable maintenant dans la gestion. Mais aussi, la gestion forestière, elle est confrontée à des problèmes divers, comme des enjeux climatiques, des maladies, des invasions. Je crois. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? C'est vrai que c'est pas évident.
Oui, bien sûr. Alors, déjà... L'ONF répond aux adjonctions de son ministre de tutelle, qui est l'agriculture. Et donc, il y a là, évidemment, une filière bois qu'il faut alimenter en bois. Alors, bon, moi, je considère qu'à l'ONF, il y a des gens de grands talents. Hein, mais malheureusement, ce talent, il est utilisé pour faire des choses qui ne sont pas, je dirais, correctes. Dans le cadre d'une gestion normale de la forêt. Il y a des gens, moi j'en connais, qui sont vraiment très très bons et qui, voilà, qu'il faudrait déplorent même des fois ce qu'on leur demande de faire. Hein. Il faut savoir qu'à l'ONF, quand même, il y a des mouvements sociaux très puissants, justement, qui s'opposent à ce mode de gestion.
Oui, il me semble qu'il y a des syndicats de forestiers qui appuient également très les arguments que vous présentez en disant que la gestion est totalement en dehors des missions d'un forestier raisonnable et durable.
Moi, j'ai rencontré des forestiers qui disent objectivement « Moi, je suis un amoureux de la forêt et je ne suis pas rentré à l'ONF
pour faire
ce qu'on me fait faire aujourd'hui. »
Exactement.
Voilà, il y en a plein qui disent ça.
On
sait que c'est une administration extrêmement, extrêmement puissante et extrêmement qui joue la terreur, hein, vis-à-vis de son personnel, et beaucoup n'osent pas en parler. Mais on connaît aussi parmi les anciens forestiers des gens qui ont la langue qui se délie et qui nous expliquent que ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct.
J'ai pu observer justement, parce qu'on a lancé une pétition sur monopinion.fr, qui a récolté plus de 40 000 signatures.
En quelques jours, c'est ça?
Quelques jours, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai eu la patience de. Et puis la reconnaissance de pouvoir lire tous les commentaires. Dans des commentaires qui venaient de partout en France, partout en Europe, même des Anglais, etc., qui sont complètement outrés de ce qui se passe en France, sachant qu'en France, on est un des derniers pays à autoriser les coupes à blanc. Donc, coupe à blanc qui a été maintes et maintes fois démontré que c'était complètement néfaste à la biodiversité.
Avec des conséquences, notamment assez... Il y a des effets, excuse-moi de t'interrompre, qu'on peut observer tous les 4 ans avec les hannetons, choses comme ça.
Exactement, mais le problème étant, c'est que c'est un cercle vicieux, on va dire ça comme ça, dans le sens où les vieux bois, donc par leur structure et leur passé, ont formé par exemple des cavités internes qui abritent par exemple un certain nombre des chauves-souris, des variétés de chauves-souris. Voilà. Qui naturellement, donc ces chauves-souris mangent justement des
prédateurs naturels des hannetons,
qui donc le problème étant, c'est comme ils ont coupé la plupart des grandes futaies qui abritaient les chauves-souris et ils ont essayé vainement de on va dire d'obliger les chauves-souris à s'installer dans des anciennes maisons forestières Mais naturellement, hein, la chauve-souris, par son façon d'être, ne vit pas dans les maisons de base. Donc, ce qui fait que les chauves-souris soit meurent, soit déménagent. Et donc, après, nos chers amis de l'ONF se plaignent de l'invasion des hannetons en fin de printemps. Des grappes entières sur des essences d'armes, c'est catastrophique. Mais bon, ils ont du mal à se remettre en question. Donc voilà. Donc les coupables, c'est catastrophique.
Ouais, il y a le problème des champignons, des plantes invasives.
Oui, alors voilà.
C'est ça. Il y a tout.
Voilà. Pour compléter un peu ce que vient de dire Ludo, j'atteste à 100%. Enfin, je suis d'accord à 100% avec ce qu'il dit. On a un exemple en forêt de Compiègne qui a frappé les épicéas l'année dernière. Et on en voit la résultante aujourd'hui. On voit des coupes à blanc d'épicéas. Eh bien, c'est exactement ça. La coupe à blanc, c'est on coupe une parcelle à zéro, on plante en ligne parce que ça sera plus facile à récolter par une machine dans quelques années. Sauf qu'on plante une essence unique, donc là, dans le cas dont je parle, c'est des épicéas, donc des sapins. On plante là des sapins. Et puis, lorsqu'arrive un parasite, la scolyte en particulier, qui est un insecte qui vivre entre l'arbre et l'écorce, qui va s'en nourrir, eh bien, on offre... mais c'est un restaurant 3 étoiles.
C'est une aubaine pour le parasite.
Le parasite va se développer là-dedans, il va ruiner la parcelle, et puis le forestier est face à cette parcelle ruinée, et on coupe, parce qu'effectivement, il faut vite éliminer le parasite et essayer de sauver ce qui reste encore d'un bois qui est évidemment déprécié, parce qu'il vient d'être attaqué par une attaque de parasite. Okay. Et en plus... Comme ce parasite, il n'est pas spécifique à la forêt de Compiègne, mais qu'on en trouve partout en Allemagne. Tous les gens qui font de la futaie comme ça, de la futaie régulière, bien semée au carré, eh bien, ils sont en train d'inonder le marché de bois scolyté. Et ces bois scolytés, évidemment, la valeur tombe.
Ils sont bradés.
Et puis, voilà, bénéfice net, c'est rien. Donc, ça, c'est quelque chose, si on parle déjà un petit peu de nos revendications, la coupe à blanc plus la plantation de monoculture, eh bien, il faut que ça cesse. Il faut arrêter cela. Il faut faut mettre des multi-essences. Il faut mélanger les essences. Mais il faut plus faire ça, je veux dire. Hein, il faut absolument que l'ONF apprenne de ses erreurs du passé. On en fait tous des erreurs dans la vie, mais il faut surtout pas.
Il faut simplement se remettre en question.
Se remettre en question, puis dire il faut qu'on arrête de faire ça, parce que là, on est foutu.
Après, là, en vous écoutant, on comprend très bien que la silviculture, le facteur prédominant, c'est la prise en compte du facteur biologique, l'harmonie naturelle. Et que si l'humain joue à l'apprenti sorcier.
Je reviens là-dessus, mais comme nos anciens l'ont fait à l'époque.
Bien sûr, voilà, c'est pour ça qu'on parle. Oui, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait de l'héritage des forestiers, des eaux et forêts de l'époque. Ils avaient tout un savoir, il y avait une façon d'exploiter les forêts plus en harmonie avec Dame Nature. Hein,
et là, on parle de l'épicéa, mais en forêt de Compiègne, on a aussi des futaies, des plantations de chêne sessile. On n'est pas à l'abri, compte tenu de l'évolution climatique, de voir là aussi apparaître... alors évidemment, personne autour de cette table le souhaite, parce que ça serait la ruine des chênes qui ont été plantés après les tempêtes des années 90. Mais on n'est pas à l'abri de voir arriver un parasite qui ruine à nouveau ces plantations-là. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait à nouveau? Donc là, il faut absolument que l'ONF apprenne de ses échecs et nous propose une autre sylviculture, car il faut quand même aussi que les auditeurs le sachent. Le plan d'aménagement qui devait régler la gestion de la forêt de Compiègne entre les années 2012 et l'année 2031 va être abrogé parce que l'ONF s'aperçoit qu'il n'est plus possible de le maintenir. Ils vont faire ce qu'on appelle un plan d'aménagement de crise. Ça, c'est tout à fait nouveau, qui aura une durée plus courte et dans laquelle ils vont essayer d'imaginer une gestion de la forêt. C'est quand même un abominable constat d'échec.
Absolument. Ouais.
Hein, de se dire qu'on n'est pas capable de régénérer la forêt. Alors, quand on ajoute à ça l'incapacité de régénérer la forêt plus la surexploitation, hein, parce que plutôt que de dire déforestation, parlons de surexploitation, parce qu'on prélève plus que la quantité de bois que la forêt est capable d'en produire. Eh bien, on est dans cette espèce d'impasse. Et moi, je comprends, moi, j'habite dans une commune forestière, je le vois tous les jours. Mais je comprends la réaction, pour boucler avec un petit peu ce qu'on a dit au début de cette émission, je comprends la réaction des Compiénois qui se disent mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
Hein, le citoyen lambda est tout à fait choqué. Bien sûr.
Et même s'il n'a pas la compétence de Ludo qui passe sa vie en forêt pour traquer les cerfs,
bon, au bout de son... quand même.
Oui, bon. au bout de son objectif, eh bien, il voit bien les choses. Hein. Les Français ne sont pas idiots.
Ils nous l'ont montré à plein de fois
qu'ils sont capables de réagir aux.
En 5 ans de temps, j'ai pu observer justement la forêt s'appauvrir, hein, tout simplement, s'appauvrir en essence d'arbres, s'appauvrir en aménagement, s'appauvrir en population de grands cervidés. Et généralement, ce sont des observations qu'on voit à long terme. Mais ce qui est choquant, je ne suis pas le seul photographe à le confirmer, parce que naturellement, on passe énormément de temps en forêt. Et on a pu observer justement cette baisse drastique de la population des grands cervidés. Et c'est
Tu l'as constaté sur le terrain.
Dans des zones qui étaient réputées, des spots réputés en grands cervidés. Naturellement, il faut prendre en compte justement le fait que des grands cervidés influent sur la forêt. Je suis bien d'accord, je suis prêt à l'accepter, mais je veux dire par là, le grand cervidé était présent bien avant que l'homme intervienne et aménage la forêt, parce que ça reste que des forêts aménagées. Les forêts primaires, on sait tous très bien que ça n'existe plus. Et c'est terrible. C'est n'importe quel animal a son rôle à jouer dans la biodiversité.
Et j'ai cru comprendre, donc c'est cette indignation soudaine qui a fait émerger ce collectif, notamment aussi, c'est ça, non ?
Disons que j'ai, en effet, je suis administrateur d'une page qui est dédiée à ma passion, et j'ai passé, entre guillemets, en parlant crûment, un coup de gueule. Dans le sens où mon rôle à moi, c'est de faire plaisir aux gens, de partager des choses que personne aimerait voir de leurs yeux vus, mais qui n'ont pas la possibilité. Donc moi, ma passion, c'est avant tout le partage, avant de faire de la photographie. Et donc je m'efforce justement de me balader, de pouvoir observer, témoigner. Et j'ai une journée comme ça, j'ai fait plus de 20 km à pied, ou dans les endroits où j'avais l'habitude de voir de magnifiques observations de grands cervidés. Et là, j'ai...
Désert
complet. Il y a tout juste 2 ans, je faisais des hardes de grands animaux, de centaines d'animaux, on va dire, un petit peu moins quand même. Et là, moitié moins. Enfin, ça m'a choqué. Et par rapport à ça, donc, on a relayé la formation, on s'est tous réunis et on a dit c'est maintenant qu'il faut agir. Donc aussi bien au niveau de la flore, par rapport à cette sylviculture qui devient du grand n'importe quoi, et également au niveau cynégétique. Donc, cynégétique, ça veut dire c'est l'aspect, on va dire, grands animaux qui...
En parallèle, excuse-moi de t'interrompre, en parallèle de la surexploitation qu'on constate, on constate aussi que les plans de chasse sont aussi assez décriés, même par les chasseurs eux-mêmes.
C'est dit d'une façon souterraine, enfin, c'est pensé, parce que quand on entend monsieur le directeur... sous-entendre que tant que les gens me rapportent qu'ils voient du cervidé, c'est qu'il y en a trop. Donc déjà, on voit déjà la mentalité de ceux qui peuvent gérer dans les bureaux, justement, la forêt. La problématique étant, c'est que, naturellement, dans leurs ambitions de sylviculture contrôlée, programmée à long terme, donc plantée en ligne, aux yeux de l'ONF, enfin, du moins pour la plupart, ou certains en tout cas, le cervidé est devenu un nuisible, un empêcheur de planter en ligne. Voilà. Donc ce qui fait que, comme l'a expliqué Didier tout à l'heure, c'est que c'est une société qui est déficitaire, donc leur objectif c'est d'augmenter, de rentabiliser de nouvelle fois leur société finalement. Et donc, au lieu de trouver une solution équilibrée, écologique, et en tout cas pour que les deux éléments se cohabitent, on a préféré finalement taper à la base. Ça veut dire qu'ils ont augmenté les, les plans de chasse. Pour tout vous expliquer, dans les années 2000, on avait connaissance de à peu près 2500 grands cervidés en forêt de Compiègne.
Et 2500, 3000, c'est ça, grosso modo.
Oui, hein. il y avait beaucoup d'animaux, effectivement, oui. À la fin des années 90, oui, on peut dire que voilà.
Il y tout avait, à fait. Et
il y a eu un comptage là, très récemment, il me semble, c'est ça.
Ils appellent ça l'INA, donc l'indice nocturne d'abondance. Ça veut dire qu'ils utilisent un certain nombre de personnes qui scrutent quasiment 18 000 hectares de territoire forestier. Même plus.
Ils englobent, je crois, tout le territoire de
la
forêt.
Tout le territoire, en fait, il n'y a pas que la forêt domaniale, ça déborde sur
les, on appelle ça les bordures, finalement.
Donc là, c'est les forestiers privés.
Ouais. Voilà, et ils ont comptabilisé un indice, donc c'est entre guillemets comme une moyenne, si vous voulez, pour être plus clair, un peu plus de 300 grands cervidés. Donc on passe en 25 ans.
De 3000 à 200, voilà. C'est ça, plus grosso modo.
Et donc, je reviens sur la réflexion de notre directeur, du directeur. Et pour lui, il y en a encore trop.
Directeur donc, voilà. Régional de l'ANEF, hein, c'est ça que tu veux.
Voilà,
c'est un gros problème, ça, les cervidés. C'est effectivement, les cervidés sont emblématiques de nos forêts. Hein. On l'a dit au début de l'émission, nos forêts du Compiénois ont été façonnées à travers les siècles pour l'exercice de la chasse à courre. C'était avant tout des domaines de chasse avant
ça,
d'être des domaines forestiers.
Au roi, hein.
Voilà, donc les rois, ils chassaient quasiment toute l'année en se déplaçant à Saint-Germain, Fontainebleau.
Héritage culturel de la forêt de
Compiègne,
tout
héritage
simplement.
Héritage culturel de la forêt de Compiègne. Nous, voilà. Donc, évidemment, les cervidés font partie aussi de nos gènes, hein, d'amoureux de nos forêts, parce qu'il y a les arbres, évidemment. Moi, je suis aussi ému lorsque je vois un grand cerf et puis lorsque je vois un très beau chêne, que je me dis, voilà, on est dans un endroit merveilleux.
Sauf qu'effectivement... symbiose qui est un petit peu perturbée en ce moment,
voilà, donc,
c'est ça.
Exactement. Donc, évidemment, plus il y a d'animaux, ils ont tendance à se nourrir et plus ils peuvent faire des dégâts à la végétation.
Et
donc, effectivement, comme disait Ludo, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, les cerfs sont considérés comme des empêcheurs de planter en ligne. Hein, donc, on a engrillagé les parcelles,
on a
ceci.
Parcelles,
et puis, évidemment, on augmente les plans de chasse. Parce qu'évidemment, on veut faire baisser les populations. Alors, si dans la fin des années 90, il est vrai qu'il y avait beaucoup d'animaux et qu'une régulation était obligatoire, lorsque la forêt n'est pas capable de se régénérer, là, il faut aussi se poser des questions. Donc, il faut prendre les choses en compte. Maintenant, on est arrivé à un niveau de population qui est très, 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 très bas, qui continue de baisser d'année en année, ce qui veut dire que les plans de chasse, même s'ils ne sont pas réalisés dans leur totalité, ils font leur effet sur la baisse des populations et qu'à un moment, il va bien falloir s'arrêter. Alors moi, ce qui me gêne toujours un petit peu dans ces gestions, dans ces histoires-là, c'est qu'on fait automatiquement dégâts de gibier égale trop d'animaux. Or, il y a plein d'endroits où il y a des densités beaucoup plus importantes d'animaux où il n'y a pas de dégâts de gibier. Alors, il faudrait quand même se poser la question de savoir s'il n'y a pas, dans la gestion de nos forêts, là aussi, encore une fois, il faut remettre les sujets sur la table et puis les discuter. On parle de... Il y a de la mécanisation. Moi, je suis toujours très choqué lorsqu'à 6 heures du matin... Un tracteur de débardage s'en va tout phare de travail, allumé parce qu'il fait nuit, parce que t'es au mois de décembre ou au mois de septembre, en plein brame, où vous voyez un tracteur qui rentre dans une parcelle où les cerfs sont en train de bramer. Moi, je suis désolé, ça s'appelle du dérangement. Donc le dérangement, on sait là aussi qu'il y a une incidence sur les dégâts de gibier.
Et sur la
faune et sur les dégâts de gibier.
Et sur le mus, hein, notamment, la mécanisation, l'industrialisation,
et donc,
ça a les gros effets.
Et surtout que c'est donc, verbalisable voilà. pour les usagers de déranger les animaux, alors qu'eux-mêmes...
Voilà.
Et donc,
je pense que les dégâts de gibier, au niveau de population que nous avons actuellement en forêt de Compiègne, on doit les analyser parce qu'on sait tous qu'il y a plusieurs raisons aux dégâts de gibier. Si la forêt est dérangée, les animaux qui sont dans une parcelle, qui doivent se nourrir au moins 6 fois par jour, hein, contrairement à ce qu'on croit, ils ne passent pas leur journée allongés dans le sol en train de dormir, ils se nourrissent. S'ils sont dérangés, ils se nourrissent là où ils sont. Ils ne se déplacent plus, ils se nourrissent là où ils sont, et donc ils font du dégât dans la parcelle. Donc si vous avez une harde d'une vingtaine de biches dans une parcelle qui est en cours de régénération, si vous l'empêchez de vivre sa vie normale, c'est-à-dire de gambader, d'aller... Vous concentrez les dégâts à cet endroit-là. Voilà.
Ouais.
Et pour aller un peu plus loin, il ne resterait que 2 biches en forêt de Compiègne, où on va faire une biche et un cerf, il faudrait bien qu'ils se nourrissent, il faudrait bien qu'ils mangent à un moment ou à un autre un morceau de bois parce que ça fait partie de leur nourriture. Ils mangent de l'herbe et ils mangent aussi de la niniculture, donc des branches. Voilà.
Merci Didier, merci Ludo pour ces présentations très précises. Vous avez compris, ce collectif et cette association est engagé pour la défense et pour une meilleure gestion de la faune et de la flore du domaine compiègnois. Vous l'avez compris, la manifestation aura lieu samedi 20 avril à 10h du matin, place de l'Hôtel de Ville de Compiègne. Venez nombreux, l'objectif c'est de sensibiliser avant tout le public, fédérer et aussi, comme vous l'avez décrit, s'asseoir autour d'une table et puis revoir les choses avec les responsables de l'ONF pour faire un travail de concertation.
On demande tout simplement une médiation, en fait, finalement, eux, justement, pour qu'on puisse. On veut travailler ensemble, c'est ça le.
On va voir les choses intelligemment.
Exactement.
On va se faire une petite pause musicale et puis on va revenir après. On fera état des revendications et puis des diverses associations présentes ce samedi 20 avril, 10h, SOS Forêt de Compiègne. Vous écoutez Radio Graphite, 94.9 FM, www.graphite.net, c'est la matinale. On est engagé ce matin dans la défense de la forêt. Un petit titre avec un petit peu d'ironie. Je vais vous passer HK et les saltimbanques. Une très bonne matinée.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Guerre mondiale nucléaire, où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre, qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette, ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça.
HK les saltimbanques avec le morceau Niquons la planète, un petit dose d'ironie ce matin. C'est la matinale, nous accueillons l'association Oise Nature et le collectif SOS Forêt de Compiègne. Et l'émission a pour objet d'informer nos auditeurs de la manifestation qui aura lieu samedi matin, samedi 20 avril à 10h, place de l'Hôtel de Ville de Compiègne. L'objet, c'est sensibiliser, fédérer le public autour de la question de la surexploitation que les associations considèrent avérée. N'est-ce pas? On a absolument, fait un peu le tour de la question ensemble. On a brassé divers sujets techniques et aussi tout simplement l'indignation citoyenne. Hein. C'est la source, la création du collectif hein, qui s'est créé, tout, comme tu le décrivais, à partir d'une indignation parallèle des associations qui travaillaient déjà depuis de longues années.
Exactement.
L'association Oise Nature et qui existe depuis les années 80. On pourrait en parler. Quelles ont été les grandes actions principales Il me semble qu'il y a eu une action juridique hein, il y a pas très,
oui,
très longtemps.
Alors,
il y a plusieurs combats qui ont été menés.
Nous, on mène des actions juridiques. Alors, c'est très compliqué de se battre contre l'ONF parce que c'est là, pour le coup, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein,
et David et Goliath.
Voilà, c'est David et Goliath. Enfin, on peut tout imaginer. Donc, à plusieurs reprises, évidemment, on a traîné un certain nombre de personnes devant les tribunaux administratifs, notamment, avec plus ou moins de succès, notamment sur des histoires de plans de chasse qui, déjà à l'époque, nous avaient choqués. On travaille beaucoup aussi sur de l'aménagement. Donc, on fait partie du collectif BioCorridor. Donc, on travaille sur la possibilité de créer et surtout de ne pas couper des jonctions biologiques importantes entre deux massifs forestiers, entre par exemple, on a une action en cours actuellement avec le Roseau, qui est une autre organisation, pour maintenir des biocorridors entre la base aérienne de Creil et de Senlis et la ville de Senlis. Donc là, c'est un peu loin de Compiègne, mais bon, ça fait partie. Tout ça fait partie des choses. Hein, on est concerné par tout cela. Il faut se battre en permanence pour faire avancer les dossiers. C'est très difficile vis-à-vis de l'ONF parce qu'effectivement. Ils ont, on le sent tous, ils ont la compétence et ils pensent que nous ne savons rien, que ce sont eux les professionnels. Et ils l'ont bien inscrit dans la tête de tout le monde.
Oui, tout à fait.
Hein, ils sont bien dans cette logique-là. Donc, on les titille en permanence. Et comme disait un ancien président de conseil général il y a quelques années, les associations sont notre poil à gratter. Donc, on les gratte. Voilà.
Bon, petit à petit, quand même, il y a des spécialistes au sein des associations et de l'argumentaire.
Et oui, parce que il faut savoir aussi qu'on est rejoint par des anciens forestiers, par des professionnels de la forêt qui n'ont pas l'analyse de l'ONF en termes de gestion et qui sont plus vers une gestion plus naturelle, plus écologique des forêts. Et qui viennent nous soutenir en nous apportant les arguments qui font mouche,
Pouvez-vous résumer, excusez-moi, en quelques, peut-être parce que j'imagine qu'il y en aura beaucoup à présenter, mais les principales revendications, doléances qu'on pourrait opposer à l'ONF sur la gestion qu'elle a actuellement?
Ben, nous, ce que l'on voudrait maintenant, c'est que effectivement la gestion actuelle ayant montré son inefficacité, eh bien... aujourd'hui, on voudrait un changement de sylviculture, qui doit plus tenir en compte les côtés écologiques. Faire de l'économie avec la forêt, c'est bien, mais d'en faire la quintessence de la gestion, c'est pas ça. Les Français l'ont dit dans de nombreuses études d'opinion, des études d'ailleurs payées par l'ONF, qu'il voulait que les forêts soient transmises, que servent aux générations futures. On voit qu'elles ont un rôle important dans la capture du CO2, dans ces processus de changement climatique qui nous touchent tous. Eh bien, on doit mettre la forêt au service de cela, tout en maintenant une production économique. Hein, la question, on en a déjà parlé, mais c'est bien, hein, il faut que ça reste comme ça. Eh bien, il faut rentrer de l'écologie dans nos forêts pour les rendre plus aptes à capter du CO2, mais aussi parce qu'on ne sait pas ce que vont être les conséquences des évolutions climatiques. On l'a vu arriver avec des parasites. On sait que plus la chaleur va monter, plus il risque d'y avoir des attaques de parasites. Donc, il faut rendre la forêt la plus résiliente possible, la plus résistante à tous ces changements. Et pour faire cela, il faut faire des mélanges d'essences, il faut faire de la futée régulière, c'est-à-dire différentes essences à différents âges. Plus la forêt est mélangée et plus elle résiste. Donc, il faut que l'ONF s'oriente vers ça. Ils ne vont pas le faire en deux ans. Ça va se faire peut-être dans le siècle qui vient. Mais il faut que, d'ores et déjà, ils s'engagent dans cette direction-là.
Il faut renforcer la forêt, l'exploiter tout en la renforçant.
Bien sûr.
C'est vrai que c'est important.
C'est exactement ça.
Il y a des facteurs aléatoires, notamment les tempêtes, la sécheresse, qui aggravent la situation. Ça, c'est certain.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Ludo, j'ai l'impression que vous voulez présenter quelques...
Non, juste pour revenir en quelques mots, justement, sur la revendication qu'on a mis sur le fly, qu'on a distribué dans toutes les... toute la, on va dire, région autour de Compiègne. En fait, on n'est pas là, enfin, les SOS Forest Compiègne n'est pas là pour taper sur du gilet vert, on va dire ça comme ça. On veut justement surtout, comme l'exemple un petit peu de nos amis du nord de Mormal, avoir une médiation. C'est surtout ça. C'est-à-dire que quand il y a des décisions à prendre, ils se réunissent, ils en discutent et ils tranchent. C'est simplement ça. C'est très simple, mais c'est généralement efficace pour certains cas.
Encore, je te coupe, Ludo, qu'à Mormal, c'est très difficile.
Ah, hein, c'est compliqué.
Très, très compliqué, parce que l'ONF, là aussi, est arc-bouté.
Je suis d'accord, mais en tout cas, il y a une ouverture à la discussion qui, on va dire... Donc,
l'objet, c'est d'instaurer un dialogue,
Ça veut dire les autorités. Voilà. C'est pour ça qu'on aimerait justement nominer un médiateur dans chacune des forêts de Picardie, justement, afin d'avoir un dialogue au niveau des décisions, au niveau civiculture et cynégétique, naturellement, une réflexion nationale sur la place de la mécanisation en forêt, parce que tout le monde le dit, les scientifiques le disent, que c'est néfaste pour le futur de nos forêts. Et une création d'un organisme indépendant visant à contrôler l'ONF et empêcher des conflits d'intérêts, parce qu'il y a aussi une grosse partie de ça. La mise en place, justement, d'un tram vieux bois en libre évolution à hauteur de 20% de la forêt, parce que c'est essentiel pour justement donc rééquilibrer la situation actuelle, et surtout justement une médiation justement au sujet de la gestion chasse et pour retrouver une population respectueuse et équilibrée de nos forêts. Et juste pour finir par rapport à ça, on s'appelle les SOS Forêts de Compiègne, mais bien évidemment ça concerne toutes nos forêts picardes, parce que justement j'ai pu, comme je suis administrateur de la page SOS Forêt de Compiègne, entre guillemets, c'est un nom un peu symbolique parce qu'entre guillemets, ce collectif fait partie d'associations et d'un passionné de la forêt de Compiègne.
Mais ça englobe tous les.
Je répète bien, et justement pour pas faire justement de côté sectaire, ça concerne l'ensemble de nos forêts. Forêt de Retz, forêt de Chantilly, forêt d'Alatte, forêt d'Hermenonville, forêt de Lègue, forêt d'Ourscan, forêt de Saint-Gobain. Voilà, on est tous concernés par la même gestion. Et justement, on vous attend tous, donc samedi, justement pour qu'on puisse justement dénoncer ce qui se passe sur l'ensemble des forêts des Hauts-de-France.
C'est vrai, ouais, d'accord.
C'est simplement ça, parce qu'on a eu certaines réflexions, mais ça se passe chez nous aussi. Et pourquoi vous n'en parlez pas, etc.
L'objectif, vous avez utilisé la symbolique de Compiègne dans son emblème.
Exactement, parce que c'est emblématique, la forêt de Compiègne. Je veux dire, quand on fait une référence forestière pour parler du Hauts-de-France et pour parler justement de Picardie, on parle de Compiègne principalement.
Comme on parle de Fontainebleau au sud.
Voilà, exactement. Mais c'est la plus grande forêt du
Nord. C'est pour résumer. Mais
donc j'invite tous ceux qui sont amoureux de la forêt en général et tous ceux qui sont... qui sont amoureux de leur propre forêt, justement, parce que ces forêts-là ne sont pas loin, finalement, de Compiègne, à pas de serre. Et justement, donc, venez. Plus on sera nombreux, plus on se fera entendre. Et justement, il y aura une ouverture de la porte pour qu'on puisse, justement, engager ce dialogue.
Samedi 20 avril, place de l'hôtel de ville de Compiègne, à 10h, itinéraire en centre-ville. On va partir du centre pour en plus après...
Rejoindre la direction régionale de l'ONF qui est dans les avenues.
Et une dernière question...
C'est une toute petite marche, hein. Il fera beau dimanche, samedi matin, tout à fait, donc profitez-en. Après, vous pourrez aller vous promener en forêt.
Il y a un très bon glacier sur la place de l'hôtel de ville.
Donc sensibiliser, fédérer le public autour de la question de la surexploitation et après, en deuxième temps, rencontrer les autorités représentatives de l'ONF, oui, instaurer un dialogue, n'est-ce pas, et puis arriver sur un terrain d'entente raisonnable.
Voilà, c'est un point de départ, cela. Hein. C'est un clic. Et puis ensuite, on espère quand même que...
Que ça donnera suite.
Ça donnera suite et que l'on sera écouté au regard de ce que vient de dire Ludo, c'est d'écouter le citoyen, quoi, je veux dire. Hein. On est dans une grande période actuellement où on sonde le citoyen en large et en travers. Voilà, nous, notre revendication, c'est ça. Hein. Laisser nos forêts vivre. Laissez-les se régénérer naturellement, laissez-les vous produire du bois, hein, la question ne se pose pas, mais essayons de rétablir des écosystèmes dynamiques et qui permettent à la forêt de résister aux grandes évolutions et aux grandes modifications que le climat va lui imposer là, dans les décennies à venir.
Un petit mot peut-être sur le collectif ensuite, enfin une fédération d'associations,
oui, voilà.
Alors, c'est qui aura lieu aussi l'après-midi.
Le samedi après-midi, mais ça sera plus en petit comité. Nous allons donc créer une association avec toutes les associations du nord de Paris, mais aussi des associations d'Île-de-France, puisque même Fontainebleau souhaite nous rejoindre, eh bien, on est en train de créer ce qu'on appelle Agir pour la sauvegarde des forêts, qui est une fédération d'associations. Là aussi, le but est le même que celui qui est rejoint par la manifestation, c'est de nous fédérer tous ensemble pour avoir plus de poids lorsqu'on va aller voir l'ONF.
C'est ça.
Et là, on ne va pas rester à l'échelon local, mais on va essayer de monter d'un cran et d'aller vers la direction générale, essayer d'infléchir les choses. Hein. Cette association fera partie, elle, d'un collectif beaucoup plus large qui s'appelle le collectif SOS Forêt,
tout
hein, qui
n'a
rien à voir avec
national,
le SOS,
du coup, ouais.
Mais qu'un SOS Forêt national qui comprend alors là, de très nombreux forestiers, hein, avec des gens du réseau des alternatives forestiers, mais aussi des ONG, hein, puisqu'il y a VVF, il y a Terre des Hommes. Enfin, là, c'est un collectif
un
beaucoup plus puissant.
Du coup,
donc, un grand mouvement
de
puissant
fédération,
qu'on essaye de faire monter. Il y aura un point d'orgue important, je l'annonce déjà, c'est qu'au mois d'octobre, il y aura les Assises de la Forêt qui vont être organisées par cette SOS Forêt France. Et donc, voilà, on essaye de faire bouger les choses là aussi. Je dirais, la base de la revendication est très similaire à celle que l'on défend ici. Hein. Voilà.
Rassembler, fédérer les citoyens et les associations.
Les informer
pour pouvoir
et aller
et surtout aimer la forêt.
Voilà. Aimer la forêt et aller dire à l'ONF qu'on n'est pas tout à fait content de ce qu'ils font actuellement.
Voilà.
Dans
en tout
forêts.
Cas, instaurer un dialogue et peser face aux protagonistes qui surexploitent un petit peu de façon abusive, d'après l'association Oise Nature et le collectif SOS Forêt de Compiègne. Samedi 20 avril à 10h, place de l'Hôtel de Ville.
Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque même des exploitants forestiers en petit comité finissent par nous dire oui, vous avez raison, la forêt est exploitée. Et surexploité depuis plusieurs décennies.
Absolument.
Plusieurs décennies, ouais. Ils ajoutent.
Donc voilà, si vous êtes dans la région ou même plus loin et que vous êtes sensible à cette question, venez. Voilà, en tout cas, c'était l'objet de cette émission, c'était de vous informer. Un petit dernier mot peut-être avant de se quitter, quelques projets à annoncer au sein de l'association, au sein du collectif, projet personnel, Ludo, photo.
Non, moi j'ai en train de préparer justement une exposition dans le cadre de la journée de la nature au parc de Gérem de Crépy-en-Valois. Donc, justement, c'est un petit événement, justement, qui a très bien fonctionné il y a 2 ans, qui revient tous les 2 ans et qui montre tous les aspects de la nature, aussi bien au niveau de l'agroalimentaire que de l'art. Voilà, et on sera 11 photographes à présenter nos photos. On vous invitera à venir nous voir et à voter pour les 3 meilleurs. Mais en tout cas, c'est un cadre appréciable, agréé par la LPO et donc un superbe endroit où vous pouvez passer un bel après-midi en famille et voir quelques belles images. Voilà.
Super.
Et ben nous, Oise Nature, on a des projets de films encore avec notamment le Majestic et puis on a aussi un projet d'exposition photo.
Ouais,
que l'on voudrait mettre
plaisir.
En place à Saint-Jean-au-Bois probablement et toujours dans le but d'informer le grand public et puis on va essayer de défendre les serres du mieux
avec
qu'on
plaisir.
Peut dans les commissions
et puis naturellement j'invite Oise Nature à faire un petit stand justement au salon c'est prévu justement on va essayer de autour de cette exposition également rester fidèle à nous-mêmes ça veut dire militer.
Super. Donc, on peut vous retrouver sur Internet, j'imagine. Il y a une page Oise Nature,
une page Oise Forêt
de Compiègne.
Exactement. Et voilà, c'est
une
sur Facebook.
Ludo
vous tapez.
Aussi, hein.
Ouais, vous tapez sur Facebook justement SOS Forêt de Compiègne. Vous tombez sur la page où Vous avez vraiment un grand nombre de témoignages, parce que naturellement, on partage les témoignages des amoureux de la forêt. Ce n'est pas qu'un discours à sens unique, c'est un partage et un témoignage, justement. D'accord. Donc voilà, et puis bon, naturellement, ma page photo sur Ludo Nature et Vie.
Ludo Nature et Vie, on peut voir des super clichés.
Voilà, et la base nature, il y a une page internet qui vient d'être remise en ligne, là, que j'ai remis en place, qui s'appelle www.oise-nature.fr. Et puis, on a aussi une page Facebook.
Oui, tout à fait, qui est très intéressante.
Voilà, et dans laquelle on partage le maximum d'informations de ce que l'on trouve de nos amis des autres forêts, mais aussi des scientifiques, parce que les scientifiques écrivent beaucoup. Vous savez qu'actuellement, le bois passionne. Et donc, voilà.
Donc, on peut vous retrouver sur internet. Et sinon, plus tard, ça sera samedi. 20 avril,
place de la Tête de Ville,
manifestation SOS Forêt de Compiègne. Merci d'avoir été présent.
Merci Didier, à vous.
Ludo, merci à Radio Graphite d'avoir permis cette émission. Merci à Brian d'avoir permis aussi cette émission. Un petit coucou à toi qui est au printemps de Bourges, si je ne m'abuse. Et une très bonne matinée à l'écoute de Radio Graphite 94.9 FM, www.graphite.net. Ciao, ciao.